Vous avez déjà songé à partir en vacances au Costa Rica ? Ce petit pays d'Amérique centrale se place régulièrement en tête des classements dans le rapport mondial sur le bonheur. Si, si, ça existe. Pionnier dans la protection de l'environnement, il concentre 4% de la biodiversité mondiale et il est souvent surnommé le pays de l'or vert. C'est une destination très à la mode pour aller voir la renaissance de la forêt tropicale. Mais derrière tout cela se cache un autre décor, celui de l'agriculture intensive et de la pauvreté. C'est ce que je vous propose de découvrir dans cet épisode. Bonjour, c'est Alexandra Cagnard. Bienvenue dans Témoins d'actu. Le podcast d'info de RFI, c'est tous les mardis et jeudis pour vous permettre d'aller plus loin sur une actualité. Et pour ne manquer aucun épisode, s'abonner, c'est encore le plus simple. Le Costa Rica, c'est un minuscule territoire de 51 000 km² coincé entre le Nicaragua et le Panama. Il est bordé par deux façades maritimes, la mer des Caraïbes d'un côté et l'océan Pacifique de l'autre. Un pays sans armée, c'est inscrit dans sa constitution depuis 1948. Le budget militaire a été transféré à d'autres causes comme l'éducation et la santé. Et depuis plus de 30 ans, la politique environnementale costaricaine est citée en exemple. Un exemple qui vacille d'autant que le nouveau président, Rodrigo Chavez, élu en avril dernier, est loin de placer l'écologie au centre de ses priorités. Son objectif, c'est avant tout de pallier la crise économique et sociale que traverse son pays, amplifiée ces dernières années par la pandémie de Covid-19. C'est Natalia Olivares, journaliste de la rédaction en espagnol de RFI, qui va m'en dire plus parce qu'elle rentre du Costa Rica et qu'elle m'attend en studio. Bonjour Natalia.
Bonjour Alexandra.
Quand je suis venue te voir pour te proposer de venir dans Témoins d'actu, tu n'as pas réfléchi très longtemps, mais surtout tu m'as dit « j'ai plein de choses à raconter parce que je ne m'attendais pas à ce que j'ai vu, à quoi tu t'attendais ?»
Alors, pour être franche, je m'attendais vraiment à voir une carte postale. Mais une carte postale animée, une carte postale vivante. La plupart du temps, on nous vend le Costa Rica comme un pays vert, dans tous les sens du terme, dans le sens visuel, dans le sens où il y a des forêts, une végétation tropicale, des oiseaux de toutes les couleurs, ce genre de choses, des animaux sauvages qui vivent au milieu des hommes, des arbres dans les villes, des zones protégées et bien protégées. Un modèle, quoi, un pays vert... Aussi en termes d'énergie renouvelable, puisqu'on peut lire ici et là que plus de 90% de l'électricité était verte au Costa Rica. Donc quand même, je m'attendais à découvrir presque en fait un paradis sur Terre, puisque ça se fait nulle part ailleurs. Un système fort qui protège la faune et la flore, qui font l'attraction justement du Costa Rica. Et effectivement, ça n'a pas du tout été ça, ma première impression. C'était pas du tout ce que j'attendais.
Alors, ta première impression, du coup, ça a été laquelle ?
Alors, quand je suis descendue de l'avion à San José, donc la capitale, je l'ai bien eu, ce souffle d'air tropical auquel on s'attend. Mais j'ai aussi été confrontée aux gros bouchons aux abords de la ville, donc en sortant de l'aéroport, etc. Donc, des heures d'attente. Et j'ai eu cette sensation, cette odeur plutôt. C'est plutôt une odeur que je dirais là. C'est une odeur de pollution, en fait. C'est une odeur qui m'a rappelé mon pays, puisque je suis chilienne, moi. Et la capitale de mon pays, Santiago, est tristement connue pour être une des plus polluées de la région. Donc, je sais ce que c'est que cette odeur. Et ça m'a rappelé mon pays. Et ce n'était pas du tout ce que j'attendais d'un pays, justement, qui s'exporte. Donc, juste pour appuyer un peu mon récit, juste dire que le parc de voitures, des bus et des camions a énormément augmenté ces dernières années, mais l'organisation n'a pas évolué. Donc, les routes ne sont pas du tout faites pour qu'il y ait un trafic souple ou pour qu'on n'ait pas justement ce chaos, cette anarchie qui fait que la capitale du Costa Rica soit énormément polluée et qu'on le sente à premier abord.
Ça, c'est pour ta première impression de la capitale, mais tu n'y es pas restée. L'objectif de ce reportage, c'était quoi ?
Alors, l'objectif de mon reportage, c'était d'aller voir, justement, hors de la capitale. J'ai dû donc prendre les transports en commun, les taxis, les minivans, pour aller à la rencontre donc de ces Costa Ricains et pour avoir leur perception, savoir si... eux étaient vraiment, disons, bénéficiaires de ce système un peu de bien-être écologique. Et donc, sur la route qui nous menait vers la côte Pacifique, pour te donner un exemple, j'ai pu voir, découvrir, et ça, c'était vraiment aussi une surprise, découvrir un paysage auquel je ne m'attendais pas du tout, puisque c'était des hectares et des hectares de plantations de palmes, vraiment à perte de vue. Hein. Et sur la route qui mène de l'autre côté, plutôt vers la côte des Caraïbes, des hectares de plantations d'ananas cette fois. À bord du bus, j'interviewais des personnes, etc. Et à un moment donné, dans les deux routes, on a senti une odeur nauséabonde, c'est-à-dire vraiment insupportable. Et ça venait des exploitations d'ananas et des plantes de palmes. Et en descendant ensuite, plus tard du bus, il y avait encore cette odeur. Donc elle m'a suivie quand même pas mal de temps.
Alors, je précise juste que le Costa Rica, c'est l'un des plus gros producteurs au monde d'ananas. Cette odeur dont tu parles, finalement, elle vient d'où ?
Elle est due aux engrais. Elle est due aux pesticides utilisés en masse et qui, dans d'autres pays, même dans la région, donc en Amérique latine, sont interdits. Ils sont acceptés, par contre, au Costa Rica.
Ça fait plutôt mauvais genre pour un pays qui se veut pionnier de la cause environnementale.
Il faut dire, Alexandra, que, comme tu le disais tout à l'heure, la production d'ananas est un pilier de l'économie et donc tous les moyens sont bons pour maintenir ce pilier-là. Et effectivement, donc, l'utilisation des pesticides est répandue. Et en plus de transformer le paysage, la monoculture de l'ananas a eu d'autres conséquences. Les villages, par exemple, aux alentours, je parle là de la région des Caraïbes du Nord, c'est là où les plantations sont basées essentiellement. Eh bien, les familles qui vivent aux alentours des plantations ont des problèmes de santé depuis quelques années, ce qui est dû à l'eau qui est devenue non potable. Justement, à cause de l'utilisation de ces pesticides, il y a des problèmes donc de grossesse, les conditions de travail qui sont considérées comme à la limite de la surexploitation. Donc, toutes ces infos, je les ai eues chez les familles, chez les syndicats, auprès des ONG qui ne cessent, eux, d'alerter les autorités, mais ça ne marche pas.
Ces hectares et ces hectares de plantations, ils se font au détriment de cette forêt tropicale ?
Oui, effectivement, elle se fait au détriment de cette forêt tropicale, justement pour pouvoir planter. Et à ce niveau-là d'exigence, on a besoin de terrain, on a besoin de terre. Et pour avoir ces terrains immenses, il faut couper des arbres. Voilà. Et donc, tu vas me demander, Alexandra, comment, puisque c'est illégal ? Eh bien, justement, avec le système D, c'est-à-dire qu'il y a des incendies qui sont créés. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont mes interviewés, les militants et les ONG qui alertent les autorités. Et une fois que donc, l'incendie a été consommé, il ne reste plus de forêt, donc il n'y a plus de terre à protéger. Et puisqu'il n'y a plus de terre à protéger, on peut planter. Et donc, qu'est-ce qu'on plante ? On plante des ananas. On maintient ce système et les autorités laissent faire.
Tu évoques les autorités, le pays, je le disais, a un nouveau président, Rodrigo Chavez. L'écologie, la défense de l'environnement, ça n'a pas fait partie de ses thèmes de campagne ?
Pas du tout. Non seulement ça ne faisait pas partie des priorités ni des débats, mais à la surprise générale, une des premières décisions donc, de Rodrigo Chavez a été de tourner complètement le dos à des années de politique commune de protection de l'environnement. Il a décidé de ne pas ratifier le premier traité environnemental de l'Amérique latine et des Caraïbes. Ça s'appelle l'accord Escazú. C'était une initiative inédite sur cette région-là. Et c'était une initiative du Costa Rica. Donc, évidemment, c'est un revers pour ceux qui veulent faire de l'environnement une priorité pour leur pays. Et c'est ce qui lui a valu son nouveau surnom. Et c'est le président anti-écolo.
L'autre ressource importante du Costa Rica, tu en parlais il y a quelques minutes, c'est le tourisme. J'imagine que c'est aussi une victime collatérale de ces grandes plantations qui détruisent le paysage, la forêt tropicale, qui attirent les voyageurs et les amoureux de la nature.
C'est marrant ce que tu dis, c'est très intéressant parce que c'est une des conclusions à laquelle je suis arrivée en rentrant à Paris. C'est qu'en fait, on assiste au fait qu'il y ait une des ressources principales économiques du pays qui grignote une autre richesse, le tourisme, donc qui est vraiment un apport financier non négligeable pour ce pays d'Amérique centrale. Et c'est intéressant parce que c'est justement peut-être par le tourisme qu'on pourra révertir un petit peu l'équilibre. Moi, j'ai interviewé deux personnages assez impliqués, des militants de l'écotourisme, et qui ont mis en place un réseau où on apprend à être proche de la nature, on invite les étrangers à connaître le paysage, les grandes forêts, les volcans, etc., et à les respecter. Mais on apprend aussi aux personnes qui vivent là, donc les petits producteurs, par exemple de café, c'était le cas avec ces personnes-là, du café, de ne pas utiliser de pesticides pour protéger l'environnement. Et cet écotourisme peut attirer plus de personnes de l'étranger qui vont consommer sur place et qui vont apprécier la nature et ce pourquoi le Costa Rica est connu à l'étranger, c'est-à-dire ses ressources naturelles, ses espèces en voie de disparition, ses grands parcs naturels protégés, etc., etc.
Est-ce que tu as le sentiment que les touristes que tu as rencontrés aussi, j'imagine, ils sont conscient de cette situation qui change au Costa Rica?
Donc on voit deux sortes de touristes, justement ceux qui sont là pour faire leurs photos sur Insta, pour montrer qu'ils étaient en train de faire du surf, qui buvaient un cocktail sur la plage ou au bord de la piscine. Et il y a les autres qui vont s'introduire plutôt en expédition dans la forêt, qui vont connaître les gens du pays, qui vont faire ce genre d'écotourisme finalement. Mais le paysage, c'est très difficile de ne pas voir que la façade du Costa Rica a été refaite.
Il y a autre chose en revanche dont tu as été consciente et témoin, c'est la pauvreté qui s'installe de plus en plus dans le pays. Tu t'es rendue dans un quartier un peu excentré de San José, la capitale. Il est situé où précisément ce quartier et qu'est-ce que tu as vu ?
Alors, ce quartier s'appelle La Carpio. Je suis contente que tu me poses la question parce que ça a été, je pense, la révélation de ce voyage au Costa Rica. Et c'était comment découvrir un quartier. Donc, je te le situe, il est à peu près à 40 minutes du centre historique de San José vers l'ouest. Il est situé exactement au pied d'une centrale hydroélectrique qui alimente tout le pays. Une des contradictions, c'était une des plus grosses que j'ai jamais vues au long de tous mes reportages, c'est qu'au pied de cette centrale, ce quartier-là vivait depuis plus de 15 jours sans eau.
Comment ça se fait qu'il ne bénéficie pas de ce système ?
C'est un quartier, mais une ville dans la ville. En fait, c'est une organisation en soi. C'est des personnes qui sont arrivées là il y a plusieurs années et qui ont bâti sur des terrains qui ne leur appartenaient pas. Et ils sont complètement marginalisés des autorités du système classique costaricain et oubliés de ce système d'énergie verte. Je te disais que c'était une révélation parce que j'ai vu là-bas une énergie humaine où effectivement, il y a vraiment rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de produit, il faut tout fabriquer soi-même, il faut tout récupérer. Et ça a créé justement toute une effervescence autour de l'éducation pour les enfants, autour de cette volonté de vouloir protéger l'environnement et de faire avec les ressources ce qu'on a.
Tu disais que malheureusement, le nouveau président qui venait d'être élu était plutôt anti-écolo, mais on sent quand même ce marqueur écologique environnemental, bien installé finalement, malgré tout.
Et oui, il est très présent. D'ailleurs, c'est étonnant, puisque comme dans un quartier où on n'a pas forcément de quoi manger, de comment amener les enfants à l'école, le fait de faire du tri ou le fait de se préoccuper de récupérer des matériaux par-ci, par-là, ça pourrait passer à la trappe, sauf que non, pas du tout. Et justement, je suis allée visiter plusieurs écoles où il y a des programmes adaptés pour justement favoriser cette conscience et pour alimenter et pour faire perdurer cette mentalité qu'ont les Costaricains. Et je pense que c'est une mentalité qui vient de plusieurs années en arrière. Le président, à l'époque, en 1949, Figueres, avait déjà commencé à faire voter des lois en ce sens, c'est-à-dire, comme on en parlait tout à l'heure, planter des arbres en échange d'une compensation financière, etc., etc. Donc ça a joué et après, tout a suivi. C'est-à-dire que les gens sont conscients aussi de l'importance de leurs réserves naturelles et de ce que le pays peut offrir aux autres pays qui n'ont pas cette chance d'avoir autant de merveilles.
Tout n'est peut-être pas perdu pour le Costa Rica. Merci beaucoup, Natalia, d'être passée dans Témoins d'actu.
Merci à toi, Alexandra.
Cet épisode est à retrouver sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, Deezer, Spotify. N'hésitez pas à lui mettre des étoiles et à le partager avec vos amis.